Sans réserve, le balado.
La première fois que j'ai mis mes pieds là-bas, c'était à Malieu-Ténam. J'étais engagée par l'ONF pour faire un documentaire. Je m'étais fait du fun au bout à rencontrer ces gens-là. C'est devenu des gens que je connais bien maintenant. Puis c'était vraiment du bon monde. J'ai réécrit comme 17 fois ce scénario-là. Puis, donc, quand j'étais perdue un peu, puis j'avais plus où aller dans l'écriture, à chaque fois que je parlais avec Naomi, ça me ramenait dans le cœur du film. J'avais l'instinct que la force du film, ça serait l'authenticité, puis l'humanité, puis la vérité des scènes, puis des gens qui allaient les incarner.
Que diriez-vous d'aller à la rencontre de Myriam Véro?
Je suis plus heureuse et fière du processus que du résultat, ce que ça a donné au final. Ça fait que ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué.
Je venais de finir mon premier long-métrage à l'Ouest de Pluton et j'étais en quête d'une idée pour faire un autre film, simplement. Et à l'Ouest de Pluton, c'est 24 heures dans la vie d'une bande d'ados en banlieue de Québec, d'où je viens. Mais il y avait quand même... On prenait un lieu qui est la banlieue de Québec. On prend les gens qui habitent véritablement ce lieu, parce que c'est les vrais ados de cette banlieue-là, et on crée une histoire avec eux, et c'est eux qui l'interprètent, c'est des non-professionnels. Donc, je voyais là un pattern intéressant à faire. Et je me suis dit, je pourrais peut-être faire ça, par exemple, dans une usine. J'arrive dans une usine, je prends le lieu, je prends les vrais travailleurs, et puis avec eux, on travaille à construire une histoire. Et c'est ces gens-là, même si c'est pas des acteurs, ils vont finir par interpréter les personnages qu'on a créés, des personnages qui restent quand même assez près d'eux, vu que c'est des non-professionnels. Mais suite à cette expérience-là à Malieu-Ténam avec l'ONF, je me suis dit, OK, mais quel endroit pour refaire ce pattern dans un lieu unique? On prend les vrais gens de ce lieu puis on crée avec eux une histoire.
Quand j'ai rencontré Naomi, j'avais surtout envie qu'on écrive un film ensemble, juste qu'on adapte Quistan, parce que le livre, je m'avais chaviré, puis pour moi, c'était vraiment un chef-d'œuvre à la première lecture. J'avais vraiment été soufflée par son écriture. Je le trouvais pas adaptable là, au départ, ce livre-là, parce qu'il est très assuré, il est très fragmenté. C'est pas une histoire, en fait, c'est plein de petites histoires. Alors moi, ce que je voulais, c'est de raconter juste une histoire qui se passe là-bas. Et j'avais envie de collaborer avec Naomi parce que j'étais impressionnée par sa plume. Donc quand je l'ai rencontrée au départ, ce que j'ai demandé, c'est « Veux-tu écrire un film avec moi? » Je voyais là une complémentarité. Déjà, dans son type d'écriture, c'est dans la prose, mais très poétique et dans la description. Mais moi, ce que je lui ai dit, c'est que c'était ma passion, mon dada, le cinéma puis le storytelling, alors qu'elle, elle apportait au scénario tout le regard intérieur, tout son souffle d'écrivaine, toute sa vision du monde, son regard sur les choses. Ça, ben moi, je l'avais pas. J'étais étrangère à ce milieu-là. Donc, c'était plus facile à faire que quand on est deux scénaristes avec les mêmes compétences. Nos rôles étaient assez campés. Naomi, elle voulait me montrer, par exemple, c'était quoi son peuple, c'était quoi sa famille, c'était quoi sa communauté. Et moi, j'étais dans l'écoute beaucoup. Par contre, dans les mécanismes de comment raconter une histoire, elle me laissait assez faire. Je lui expliquais comment écrire un scénario de film, techniquement parlant, c'est qu'à la 20 pages, il m'a mis pour un twist narratif, tout ça, ces choses-là. Puis elle ramenait constamment la discussion sur comment elle voyait ce film-là, qu'est-ce qu'elle voulait pas voir, qu'est-ce qu'elle voulait pas faire, quel cliché elle voulait éviter, puis qu'est-ce qu'elle voulait montrer. Et puis, ben moi, j'étais très ouverte à ça, donc ça s'est quand même super bien passé. Donc, je dirais que c'est moi qui écrivais la plupart du temps, mais avec toujours, toujours, toujours un guide et toujours un banc de sa part, puis elle me ramenait toujours sur le but et le pourquoi qu'on faisait ce film-là.
J'en ai vécu des tournages, puis c'est vrai qu'on dit toujours on est comme une famille, mais c'est pas tout le temps vrai. Des fois, c'est vrai. Mais là, il y avait quelque chose de particulier et c'était hors de l'ordinaire. cette famille-là se pouvait pas, en fait. La maquilleuse qui habite le Mile End, puis le machinot qui habite Longueuil, qui va passer 3 mois là-bas, puis qui, tout à coup, habite à Sept-Îles. Puis quand on est en congé, là, habituellement, on retourne chez eux, dans sa famille, puis on décroche du travail, mais il ne pouvait pas décrocher. Il était là, puis il savait pas quoi faire. Puis là, ben, c'est son nouveau chum, Inou, qui joue dans le film, qui disait, hey, viens, on va monter dans le bois, on va aller au camp à Rivière-Moisie, on va faire des trucs comme ça. Puis là, ça crée vraiment des amitiés fortes et des aventures inoubliable. Ça crée vraiment une famille, puis elle existe encore aujourd'hui. On se voit encore, on se donne des nouvelles beaucoup. C'est arrivé des techs de Montréal. L'été, qu'est-ce que je fais pour mes vacances? Je vais retourner sur la Côte-Nord, je m'ennuie. T'sais. Puis là, ils retournent voir les amis dans la communauté. T'sais. Ça crée des ponts qui n'auraient pas existé sinon. Ça paraît un peu suffisant de regarder souvent son film. C'est juste que quand je vais dans un festival, il rejoue, puis je le présente. Puis là, après, je sors de la salle. Mais tu sais, des fois, je suis accrochée, puis là, je reviens. Je me rassois dans la salle, puis j'aime ça entendre les gens réagir. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, t'es capable de regarder ton film toutes ces fois-là? » Puis ça m'avait perturbée. Je me disais « Pourquoi je suis capable d'écouter autant? » Tu sais, d'habitude, je suis pas capable d'écouter tant ce que je fais. Puis je me suis rendu compte que c'est pas le film, mais que c'est les gens dans le film. C'est vraiment ça, c'est que je m'ennuie d'eux autres. Je m'ennuie de cette famille-là, puis quand je vois leur face sur le grand écran, j'ai l'impression de passer du temps avec eux, parce qu'ils sont très proches de leurs personnages, et puis quand ils ont des énormes fous rires, moi, j'avais le même fou rire qu'eux sur le plateau, donc je me rappelle ces moments-là où on riait incroyablement, fait que c'est ça, c'est plus parce que je m'ennuie d'eux. Il y a des gens qui m'écrivent et me disent « Bien, je sais que tu le sais, mais j'ai pensé ça de ton film. » Puis tu sais, je suis comme « Oui, je le sais, mais à chaque fois que j'entends ça, ça me touche énormément. » Puis les commentaires des Inou me touchent particulièrement parce que quand je le faisais, j'étais rendue tellement amoureuse de cette histoire et des gens avec qui je faisais ça que c'était mon but de leur plaire. Puis il y a des gens qui m'ont carrément dit qu'ils n'avaient jamais ressenti une si grande fierté d'être Inou. Moi, ça me renverse, puis ça me donnait larmes aux yeux. Un commentaire qui m'avait touché beaucoup, c'était une femme québécoise qui avait aucun lien avec le monde autochtone. Et elle m'a carrément dit, ça m'a fait changer ma vision de ces gens-là. Je savais ce qu'elle voulait dire. Je savais qu'elle avait eu la même éducation que moi. Je la connais, cette femme-là, dans un sens où elle a la même culture que moi. Puis je sais qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Puis ça, ça m'a vraiment touché. Parce que moi, quand le switch s'est fait, là, on dirait que j'ai pas arrêté de vouloir shaker les gens. J'ai pas arrêté de vouloir les amener dans mon regard neuf. Et je pense qu'il faut commencer quelque part, puis c'est cette responsabilité-là des cinéastes blancs, dans un sens où si on traite de ce sujet-là, ben on n'est pas obligé de toujours s'adresser non plus aux Autochtones, on peut s'adresser aussi à nos frères et sœurs blancs, puis leur dire « Regardez, je pense que t'es dans le champ. » Simplement. Fait que quand elle m'a dit ça, cette femme-là, ça m'a vraiment touchée parce que veux pas, j'ai voulu faire du cinéma, j'ai pas voulu convertir personne, j'ai pas la prétention de changer le monde, j'ai pas la prétention de vouloir changer les esprits, mais de penser que cette femme-là a plus la même opinion, je trouve ça immensément touchant. Le cinéma a cet avantage-là, c'est un art populaire, puis c'est pas pour rien que cette industrie-là, elle est immense aux États-Unis et partout, mais c'est depuis que c'est inventé, c'est un art qui accroche les gens, puis la fiction encore plus, tu sais. Il y a quelque chose qu'on peut dire en fiction qu'on dit difficilement aussi en documentaire. Il y a des choses qu'on peut montrer, ça ramasse large, puis ça t'amène dans plein d'émotions, puis il y a des choses qu'on peut dire, je pense, dans la fiction, par des maladresses. Puis dans le film, je pense qu'on en voit, il y a des personnages qui disent des trucs malaisants des fois, mais ça passe parce que c'est de la fiction. Mais ceci dit, je pense que le documentaire militant est très nécessaire. C'est juste que moi, je suis pas une cinéaste de documentaire militant, mais faut pas négliger cet art-là qui change le monde et qui est capable de changer des mentalités.
Je reçois des courriels constamment. Des festivals qui veulent que j'envoie un message de remerciement parce qu'on a gagné à telle place, puis c'est des places tellement éloignées, c'est fou, là. Moi, j'en reviens juste pas, là. C'est non-stop. On a gagné le meilleur film au festival de Nashville aux États-Unis. La même semaine qu'on a gagné le Grand Prix au festival de Kiev en Ukraine, tu sais, je me dis, Ukraine, Nashville, il y a tellement deux mondes. Les gens sont touchés peut-être parce que c'est une histoire qui est simple, puis peu importe d'où on vient, on a tous eu une amie d'enfance ou un ami d'enfance très proche de nous, qu'on a gardé ou qu'on a quitté. Puis Puis c'est ça, dans le fond, Quispam, c'est deux amis qui sont vraiment très, très proches, mais qui ont finalement deux personnalités vraiment très éloignées, puis qui ont des aspirations vraiment très différentes. Fait que la vie fait que ça les sépare. Ça veut pas dire qu'ils s'aiment pas puis qu'ils veulent plus se voir, mais les vies ont pris des chemins différents, puis ça, ça vient toucher les cœurs partout. Fait que la réception, elle est magique, là, vraiment. J'ai commencé ce projet-là, j'étais au début de ma trentaine, puis là, maintenant, j'ai 41 ans. Ça a changé ma vie, simplement. Je pense que ce projet-là m'a formée comme femme. Je suis pas la même personne avant puis après, parce que ça a été long, puis ça a été marquant. Je suis devenue une meilleure personne. Ça a apporté beaucoup à ma perception de ma société, de la politique, de plein de choses, de comment je perçois mon identité. Ça m'a fait énormément cheminer puis réfléchir. Ça m'a fait évoluer finalement. Puis je pense que quand on s'attaque à des gros projets comme ça, ben c'est ce qu'on espère.
Sans réserve, le balado est une production d'Animikissi Digital Production en collaboration avec les productions Mustang. À la réalisation, Sandy Pintéus. À la gestion et au contenu, Marie-Josée Baudreau.